Corde Éthique Religieuse par le Père Dominique Philippe, le 9 novembre 2001 à Saint-Judas.
Il y a une petite question. Vous nous avez montré comment la découverte de l'existence de Dieu, Créateur et Père, réclame de la personne l'adoration comme réponse. Aurait-il aussi une réponse au niveau communautaire et politique? Oui. Oui, j'en ai pas parlé parce que ce serait justement l'aspect communautaire et politique que nous verrions. Mais il a raison de soulever ça. C'est bien évident que, au point de vue communautaire, l'adoration va être au point de départ de la première liturgie religieuse naturelle. On peut réclamer le droit d'une liturgie religieuse communautaire. C'est un droit naturel. Et s'opposer à cela est contraire au bien commun. Alors, cette liturgie communautaire pourra être réglée par l'État. C'est sûr, point de vue, manière, modification qu'elle peut se faire, les jours, les heures, c'est sûr, elle entre dans le bien commun. C'est un bien commun naturel pour l'homme de pouvoir exprimer communautairement son adoration, son amour du Créateur. Ne pas le regarder comme un bien commun naturel, c'est contre la nature. La laïcité à ce point de vue-là est contraire à la nature humaine. Ça fait des petits nains. Parce qu'ils n'ont pas le sommet. Vous leur coupez la tête. La laïcité diminue l'humanité. Elle fait l'humanité, au bout d'un certain temps, bornée. Parce que si on ne pousse pas jusqu'au bout, tout ce que l'homme peut faire par nature, mais il diminue volontairement. Et se diminuer par rapport à la finalité, c'est très grave. Et c'est nécessairement préparer une génération d'hommes qui ne seront pas épanouis. Des nains. Spirituellement, des nains spirituels. C'est ça qui est très grave. Parce que quand il y a plusieurs générations comme cela, ça s'installe comme une chose normale. Alors ça empêche l'humanité de progresser. Parce que c'est notre fin naturelle d'adorer Dieu. C'est notre fin naturelle et c'est notre fin politiquement qu'il puisse y avoir une liturgie religieuse naturelle. C'est un droit que l'homme doit revendiquer. Est-ce que le culte politique, la liturgie, est naturel ? Ou relève-t-elle de traditions religieuses? Les traditions religieuses sont naturelles. Alors, elles relèvent, elles se précisent par les traditions religieuses. Mais ce droit naturel en lui-même relève de la finalité. La finalité de l'homme est de chercher la vérité. C'est une finalité naturelle de chercher la vérité. Or, la découverte de Dieu, est capable pour l'homme. Elle est naturelle. Et dès que l'intelligence découvre Dieu, l'homme doit l'adorer. Alors, même ceux qui n'arrivent pas au plan de vue métaphysique, parce que ça exigerait que tout le monde fasse de la métaphysique. Alors on sait que c'est un rêve, hein, que tout le monde fasse de la métaphysique. Mais il suffit que certains puissent l'affirmer, les autres reconnaissent que c'est une tradition, une coutume bonne, qui n'est pas mauvaise, reconnaître, ça repose sur la sagesse de quelques-uns. Et la sagesse de quelques-uns se traduit dans la sagesse prudentielle qui s'appuie sur une certaine tradition, une certaine coutume. Parce que si on attendait que le chef d'État soit un métaphysicien, il faudrait attendre longtemps, sans doute. C'est le rêve de Platon. C'est le rêve de Platon. Le philosophe roi. Et le philosophe a quelque chose de mieux à faire que d'être roi, c'est de contempler. Et d'être conseiller du roi. Et pas, puisque les forces humaines sont limitées. Le rêve de Platon est un rêve qui est très beau, sans doute, très, très noble. Mais qui n'est pas réalisable. La prudence politique, surtout actuellement, accapare tout effort d'un homme. Mais il faut que cette prudence politique soit éclairée par une sagesse naturelle. Ça, c'est très rare, mais ça peut exister, et ça de fait, ça a existé. Mais il est tout à fait juste de dire que cette adoration personnelle, parce qu'elle joue au niveau personnel, et même au point de vue personnel, elle est la sixième dimension de la personne. Naturellement, la personne doit adorer. On n'est pas une personne humaine parfaite si on n'adore pas. Donc, il faut comprendre que l'adoration est en premier lieu la dimension ultime de la personne humaine. Et vous pouvez dire, en toute rigueur, la personne humaine doit adorer son Créateur. Elle le fait si elle a elle-même découvert l'existence de Dieu. Si elle n'a pas découvert elle-même l'existence de Dieu, elle reconnaît que c'est sage. Elle reconnaît que c'est normal. Alors, elle s'appuie sur ceux qui peuvent démontrer cette existence de Dieu comme Créateur. Mais, autrement dit, la politique doit normalement être religieuse. La politique doit normalement être religieuse. Quand le président des États-Unis demande une journée de prière, parce que la chose est particulièrement grave, c'est un acte politique religieux et qui est normal. Quand il s'agit de prendre une décision importante, grave, c'est normal que le président de la République réclame une journée de prière, une journée de désert. On en est loin. Hein. En France, en Amérique, cela existe. Et ça, c'est beau. Et c'est grand. Il faut le reconnaître. Donc, l'adoration, il faut développer en nous la vertu religieuse. Ce n'est pas une vertu infuse. C'est une vertu qui s'acquiert. L'homme devient religieux. Un homme, un petit bébé, emporté par des loups, et vivant dans un contexte de loup, n'adore plus. Un petit enfant dans le milieu humain, vraiment humain, et donc religieux, se met à adorer. Il apprend à adorer. C'est même la première chose qu'on doit apprendre à un enfant. L'adoration doit être comme la respiration la plus profonde de l'âme. Et c'est vraiment la respiration la plus profonde de l'âme. Une âme qui n'adore plus, donc qui perd le sens religieux, c'est terrible. C'est désastreux. Parce que c'est naturel. Et comme c'est naturel, et ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus profondément naturel, on est en face de la dimension naturelle la plus profonde. Ça, il faut en avoir la conviction, mais l'évidence, il faut en avoir l'évidence. Il ne faut pas seulement dire, on dit ça, ça fait bien. Non, non, non. Il faudrait que tous vous en ayez l'évidence. Que la conséquence immédiate au point de vue pratique de la découverte de l'existence d'un être premier, Dieu, créateur, maintient en nous, permet de développer en nous cette vertu fondamentale, la vertu de religion, dont l'acte premier est de se dévouer à Dieu, dont l'acte premier est de reconnaître Dieu créateur, créateur de l'âme. Et la première chose que veulent ceux qui sont anti-religieux, anti-chrétiens, et c'est ça qui est terrible, c'est que on bloque le christianisme et le point de vue religieux, alors qu'il ne faut pas le bloquer. Ce sont deux choses différentes. On est chrétien par gratuité d'amour de Dieu. C'est le Christ qui nous donne ça gratuitement. On n'est pas naturellement chrétien. On l'est par une miséricorde surnaturelle qui nous donne la grâce et la foi. Mais on est naturellement religieux. L'attitude religieuse qui s'acquiert par le point de vue de l'adoration reste naturelle. Donc supprimer ça, c'est supprimer la chose principale de la personne. humaine. C'est donc, par le fait même, empêcher la personne humaine de se développer. Un État qui se veut laïque et qui ne respecte pas le point de vue religieux, c'est un État qui diminue ses citoyens et qui fait que petit à petit, ces citoyens deviendront des imbéciles. Parce que c'est naturel à l'homme de développer en lui la vertu de religion. La vertu de religion n'est pas infuse, elle est acquise. Elle s'acquiert. On apprend à un enfant d'être religieux. On apprend à un enfant d'adorer Dieu. Et c'est même la première chose qu'on doit faire dans l'éducation. Puisque la vertu de religion est la vertu la plus fondamentale. C'est la vertu qui touche le fondement profond de notre vie humaine, qui est d'être une vie religieuse. Puisque c'est ce qui caractérise l'homme, c'est d'être un animal raisonnable, d'être un animal intelligent, et par l'intelligence, il est demandé d'aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité, et dans la recherche de la vérité, reconnaître qu'on est dépendant de Dieu. C'est vraiment l'attitude la plus humaine et en fait même la plus religieuse. L'attitude religieuse qui fait que l'homme naturellement adore Dieu. Et ne plus vouloir reconnaître cela, c'est conduire l'homme à être volontairement un être qui ne s'épanouit plus jusqu'au bout, qui se replie sur lui, et par le fait même, c'est un être qui ne sera pas totalement épanoui. Il y a une répercussion naturelle, alors il faudrait, et ça qui serait très intéressant à étudier, il faudrait étudier que dès qu'on empêche la nature humaine de s'épanouir, nécessairement on engendre chez l'individu un repliement sur soi. Et un repliement sur soi qui vous supprime le lien avec votre finalité, ma finalité normale, c'est de reconnaître que Dieu est mon créateur. Supprimer cela, c'est replier l'homme sur lui-même. C'est l'empêcher d'atteindre sa fin. Ce repliement est source d'angoisse. L'angoisse la plus profonde, c'est de ne pas s'orienter vers sa vraie finalité, c'est la supprimer. La découverte de notre vraie finalité nous donne la possibilité d'un amour fondamental. Adorer Dieu est la source de cet amour le plus foncier qui est en nous. Reconnaître notre Créateur. Et forcément, la suppression de l'adoration fait que l'homme n'atteint plus sa finalité. Il ne peut plus atteindre sa finalité. Par le fait même, se replie sur lui-même. Et ce repliement se paie lourdement par une espèce d'angoisse. Empêcher d'atteindre sa finalité se traduit nécessairement tout de suite par l'angoisse. Donc, on prépare des gens qui ne respireront plus librement, mais qui seront angoissés. Et l'angoisse la plus profonde, c'est le refoulement à l'égard de Dieu. Refoulement à l'égard de cette vérité foncière qui est reconnaître que Dieu est Dieu, créateur de notre âme. C'est sûr que c'est très peu dit, mais ça doit être dit. Et nous devons, nous, en avoir la certitude. Il faut qu'on arrive à comprendre ce que représente ce refoulement fondamental qui empêche notre intelligence de reconnaître l'existence de Dieu comme Père de notre âme. Celui qui donne l'âme. Empêcher l'homme d'atteindre l'existence de Dieu, c'est nécessairement l'aider, le forcer à devenir un bâtard. Puisque Dieu est notre Père de notre âme. Donc, empêcher de reconnaître cette paternité à l'égard de Dieu, c'est de faire des orphelins qui ne reconnaissent plus d'où ils viennent, qui ne reconnaissent plus que cette dimension religieuse est ce qu'il y a de plus grand en nous, de plus noble en nous. Cette dimension religieuse nous donne une très grande liberté. Tout refoulement diminue la liberté. Tout refoulement est une atteinte à la liberté. Parce que ça empêche de se développer parfaitement. Mais le refoulement à l'égard de ce qu'il y a de plus foncier en nous, ce qu'il y a de plus foncier en nous, c'est de pouvoir remonter jusqu'au Créateur. Et de le reconnaître. Donc, le refoulement volontaire à l'égard du Créateur engendre nécessairement en nous le repliement le plus terrible et la source de toutes les angoisses. Alors si on a été pendant un certain nombre d'années élevé dans ce climat, ce qui arrive aujourd'hui. Nécessairement, il y a en nous un fond radical d'angoisse. On est sans connaître son père. Et on ne le sait pas. Hein. C'est ça qui est le plus terrible. Parce que quand on le sait, on se guérit. On peut se guérir. Tandis qu'on ne le sait pas. Alors, on crée des angoissés, repliés sur eux-mêmes, sans leur donner la possibilité de reprendre une vie normale, une vie sans angoisse, radicalement. C'est, je crois, très important. Parce que nous vivons, de fait, dans un monde qui se développe comme cela. La plupart des gens se développent comme ça. Se développent comme des futurs angoissés. Et une angoisse qui n'est pas secondaire, qui touche l'aspect le plus fondamental qui est en nous. Notre finalité la plus radicale, c'est Dieu. La finalité de notre âme, c'est Dieu. Et donc le refus de considérer cela amène forcément une humanité qui se replie et qui s'angoisse et qui ne sait pas comment elle peut se guérir. Et la seule manière, c'est de redécouvrir ce qu'il peut y avoir en nous de plus radical, cette ouverture à l'égard de l'être premier. C'est, je crois, quelque chose auquel on doit être très attentif dans notre monde d'aujourd'hui, pour nous et pour ceux qui sont auprès de nous. On doit comprendre que le refus de Dieu, le refus de l'adoration est nécessairement source de l'angoisse la plus forte, la plus profonde, et qui se manifestera dans des choses peut-être très secondaires, mais qui se manifestera très vite. C'est très important cela, parce que pour notre conduite à nous, nous avons le privilège d'être des hommes capables d'adorer. Nous sommes des membres de la vie humaine capables d'adorer et qui adorent et qui développent en eux l'adoration. Alors, nous développons en nous une sécurité radicale. Qui est de développer ce sens de Dieu et de reconnaître la dépendance à l'égard de Dieu. Nous devons, par le fait même, devenir pour ceux qui, bien souvent, n'en sont pas coupables, parce qu'ils ont été élevé dans un milieu tel que l'ignorance de Dieu était fatale. Il faut qu'on puisse redécouvrir cette démarche. Et comprendre qu'on peut petit à petit remettre dans une voie de libération en reconnaissant cette vérité. L'adoration est donc pour nous, dans la perspective philosophique, la première arête pour que la personne humaine puisse se développer pleinement et redécouvrir cela est essentiel. Si on vit dans un milieu athée, il faut qu'on puisse dépasser ce milieu et trouver un moyen ou un autre de pouvoir respirer. C'est au fond l'atmosphère spirituelle commence par l'adoration. Et si vous supprimez l'adoration, vous n'avez plus la possibilité d'avoir cet air spirituel, cette atmosphère spirituelle. Et vous vous diminuez. L'adoration se continue en un abandon. L'abandon n'est pas une vertu. Être abandonné, ce n'est pas une vertu. Mais c'est un état. On vit dans la confiance. Et quand on est dans la confiance, on peut être abandonné. Mais il faut créer ce climat de confiance. S'il n'y a pas ce climat de confiance, il ne peut pas y avoir d'abandon. Donc, si on crée un climat d'athéisme, de suppression de l'existence de Dieu, on crée un climat qui empêche d'être abandonné, parce que on n'a plus personne devant nous. On reste uniquement devant un milieu humain. Et dans ce milieu humain, on ne peut plus alors s'abandonner, se confier à des êtres humains. Et se confier à des êtres humains qui eux-mêmes ne croient plus, qui eux-mêmes refusent de regarder Dieu, fait que ce climat d'athéisme nous empêche de trouver un véritable abandon. C'est très net. Mais si on a une finalité, si on découvre la finalité de notre âme, la finalité de notre personne humaine, par l'adoration, Dieu est notre fin, il est notre Père. Nous créons en nous-mêmes une possibilité de s'accrocher à Dieu en étant relatif à Dieu. Être relatif à Dieu, même si Dieu, on ne le voit pas, être relatif à Dieu nous met dans un état de plénitude, puisque on peut être aimé de Dieu, et il est normal d'être aimé de Dieu en le découvrant et en reconnaissant qui il est. Donc, l'abandon à l'égard de Dieu est une attitude naturelle et bonne qui permet de se reposer, de ne pas être toujours en état d'alerte, mais d'avoir la possibilité de considérer qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous qui nous aide. Et considérer ça, ça nous aide beaucoup à maintenir un vrai tonus positif dans notre vie. Je crois que l'adoration immédiatement nous conduit à cette attitude d'abandon, de nous reposer, de pouvoir nous reposer sur quelqu'un de plus grand que nous, de pouvoir nous reposer sur quelqu'un qui veille sur nous, de pouvoir nous reposer sur quelqu'un qui nous aime. Naturellement, je puis avoir cette certitude que Dieu qui m'a créé est bon pour moi. S'il est bon pour moi, je puis avoir confiance en lui. Et je puis rester dans cette confiance qui fait que plus je m'approche de lui, plus je peux m'abandonner. Il n'y a pas de limite à l'abandon. Et c'est une conséquence directe de l'adoration. Alors que, au contraire, le fait de ne pas adorer me replie sur moi-même et m'empêche d'avoir ce vrai repos. Et en me repliant sur moi-même, m'empêche aussi de trouver un autre sur lequel je puis m'appuyer, puisque lui aussi n'adore pas. Puisqu'il n'adore pas, il reste lui-même aussi dans cet état de quelqu'un qui ne peut pas s'abandonner, qui ne peut pas se reposer sur un autre. Alors, il y a ce climat d'instabilité, d'insatisfaction, qui est juste l'inverse de l'abandon. Et plus l'être est faible, petit, plus il a besoin de l'abandon. Plus ceux qui sont responsables de la croissance de l'être humain, d'un petit, plus il a besoin, quand il est faible, de ce climat où il peut se reposer. Donc, au fond, s'il n'a pas possibilité de se reposer, de s'abandonner, il est seul. Et la solitude est terrible. Il faut saisir combien l'être humain, en raison de sa faiblesse, en raison de sa petitesse, quand il vient au monde, a besoin de ce climat d'abandon, de repos. Alors, c'est vrai, humainement, il peut trouver un certain repos, une certaine détente dans quelqu'un qu'il aime humainement. Mais ce repos est limité et très vite il s'aperçoit qu'il est limité. Parce que quand il repose sur l'adoration, il repose sur celui qui est le père de notre âme. Donc, sur celui qui, pour nous, est notre fin. Celui qui peut nous permettre cela. Tandis que, s'il n'a pas ça, il pourra trouver momentanément un certain bien-être, un certain repos, mais cela craquera dès qu'il sera en face qu'il n'y a pas d'être supérieur et que tous les êtres sont eux-mêmes dans cette très grande fragilité.